Donner et recevoir, premier cours. Donner et recevoir, premier cours. Ce cours va concerner nos finances, bien sûr, et la volonté de Dieu, d'une manière générale, pour nous chrétiens nés de nouveau, donc sur nos finances, concernant nos finances. C'est un sujet qui est important et qui souvent est soit mal abordé ou encore qui n'est pas du tout abordé. Des fois, c'est même esquivé, hein, on ne veut même pas en parler. Parce que ça crée un certain nombre de problèmes. Mais désolé de le dire, nous allons le voir, la parole de Dieu parle d'argent. Et si la parole de Dieu parle d'argent, eh bien nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons parler d'argent. C'est normal. C'est une simple conclusion, non? C'est normal. Ça fait partie des choses de la vie, hein. Tous les jours, on sort de l'argent de notre poche, on fait des choses avec notre argent. Certains, on peut rencontrer des problèmes d'argent, d'autres, nous pouvons ne pas rencontrer ou quasiment jamais des problèmes d'argent, etc., etc. Mais l'argent est un sujet qui divise, c'est un sujet qui crée des guerres, c'est un sujet qui fait beaucoup de choses. Et aussi, nous allons le voir, l'argent a une puissance, une grande puissance. Et il faudra voir ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça. Alors, chapitre 1, la volonté de Dieu pour nos finances. Chapitre 1. La volonté de Dieu pour nos finances. La volonté de Dieu pour nos finances. Chapitre 1. Alors dans ce cours, certains parmi vous, vous allez être décoiffés, comme on dit si bien en français, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être remises en question et sérieusement en question dans votre vie personnelle. Et je vous invite à méditer parce qu'il faut vraiment se mettre au diapason de la parole de Dieu. Il faut pas se dire, moi, j'ai mon opinion personnelle. C'est bien d'avoir son opinion personnelle. Je suis d'accord. Mais si cette opinion contredit la parole de Dieu, alors faisons attention. Parce que parfois, nous nous retrouvons devant des problèmes dans nos vies parce que nous disons, moi, je pense que, moi, j'estime que. C'est très bien d'estimer, de penser. Mais ce que tu crois, ce que tu penses, c'est soit ce qui te libère ou soit ce qui te lie. Et nous avons suffisamment vu des choses dans la foi pour comprendre que nos façons de penser parfois sont des forteresses dans nos vies et qu'il y a des choses qui doivent tomber avant que nous puissions bénéficier d'un certain nombre de bénédictions. Et dans le domaine des finances, nous devons apprendre un certain nombre de principes, des principes qui sont scripturaires, et tout ce qui n'est pas scripturaire, nous devons le mettre à la poubelle. Et nous devons changer. C'est à nous de changer. Dieu ne change pas. Sa parole ne change pas. Ce que Dieu veut, c'est que nous apprenions, que nous connaissions sa parole. Et à partir de cela, que nous puissions pratiquer sa parole. Et dans le domaine des finances, il y a plein, plein de choses que la Bible dit. Donc nous allons les connaître. Nous allons les apprendre. Nous allons les voir. Nous allons les comprendre. Certaines, ça va un peu vous choquer, mais peu importe. L'important, c'est de savoir ce que dit la parole de Dieu et se conformer à la parole de Dieu. Parce que j'ai vu au travers de ces enseignements bien des gens avoir leur situation financière de changer, bien des gens comprendre qu'au travers de ces enseignements sur la prospérité, sur les finances, parce qu'il y a souvent des gens qui posent des questions en disant oui, c'est quoi cette histoire de prospérité là? Ça veut dire que tout le monde doit rouler en Mercedes et avoir trois maisons à Kiriri ou des choses comme ça? Non, on va voir ce que dit la parole de Dieu par rapport à cela. Et on va voir comment au travers d'enseignements de la parole, de ce que Jésus a fait pour nous, nous pouvons, si nous sommes dans une situation difficile financière, voir ces situations changer. Nous verrons aussi à quoi doivent servir les finances des chrétiens. Nous verrons aussi les terribles mensonges du diable dans les églises. Parce que nous allons découvrir qu'il y a beaucoup de choses que le diable essaye de faire, justement, dans les églises pour empêcher l'évangile d'avancer. Et nous verrons que l'argent a une puissance. Maintenant, il faudra savoir aux mains de qui est cette puissance. Si c'est aux mains des païens, souvent les chrétiens se plaignent. Ils disent, oh, les païens, t'as vu celui-ci? Il a encore acheté telle voiture, il a fait telle chose et tel truc. Ah, on sait où il a eu son argent, hein? Et alors, ça fait tout un tas de commentaires. D'accord? Mais toi, chrétien, qu'est-ce que tu fais? Toi, chrétien, qu'est-ce que tu fais? Et il faut se poser les questions. C'est vrai que les païens, on voit que beaucoup de païens ont beaucoup de finances. Et c'est une désolation d'ailleurs pour le corps de Christ. Normalement, nous allons le voir, ça devrait être les chrétiens qui devraient être les plus riches, avec des mains propres, et savoir utiliser ces finances justement pour le royaume de Dieu. On verra qu'il y a une raison pour laquelle Dieu nous veut prospères. Il a ses raisons, et il a des bonnes raisons. Et c'est important de les comprendre, d'entrer dans la volonté de Dieu pour nos finances. Dieu a une volonté pour chacun d'entre nous, elle est marquée dans sa parole, et il faut savoir sortir de certaines choses que nous avons pu subir, des conséquences que nous avons pu subir. Moi, je me souviens, quand je me suis converti, je pensais qu'un chrétien ne pouvait même pas monter dans une voiture. Je suis sérieux quand je vous dis ça. Il devait s'habiller avec des trucs craqués, parce que sinon, avoir le moindre habit propre, ça signifiait vraiment qu'il était attaché aux choses du monde. Et moi, c'était la mentalité que j'avais au départ. Et bien des années après, j'ai compris que j'étais complètement dans le faux. Et j'étais gêné. Pendant des années, j'étais gêné. Faire un chèque à l'église, ah, c'était difficile au début. Je voyais, ma femme voulait donner des sous à l'église. Je la regardais comme ça, je disais, hein, combien? Non. Quoi ça? Et au début, c'était ça. Moi, au début, je voulais pas. Moi, je voulais pas donner au Seigneur. Je savais pas que c'était donner au Seigneur. Pour moi, c'était clair, on était dans l'église, tout le monde allait bien, bon, le reste, je voulais pas le savoir. Et pour moi, au début, c'était ça, personnellement. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu à peu près les 3 premières années de ma vie chrétienne. Parce que j'avais aucun enseignement sur les finances. Et j'étais gêné d'avoir un peu d'argent. Ça me dérangeait beaucoup. Parce que je me disais, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que nous, les chrétiens, on peut s'acheter ça? Est-ce que? J'avais beaucoup, beaucoup de questions. J'étais très, très gêné par rapport à ça. Très gêné. Puis bon, le Seigneur a quand même mis des gens sur mon chemin qui m'ont fait comprendre certaines choses. Puis après, j'ai quand même eu de bons enseignements qui m'ont permis aussi de comprendre certains principes. Et il y a des principes scripturaires. On va voir, je vous préviens. Je vous parlerai aussi de comment une église doit être financée. Ça va peut-être surprendre certains d'entre vous, mais peu importe. On va quand même aller profondément au niveau de l'œuvre de Dieu par rapport aux finances et par rapport aux chrétiens. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises compréhensions par rapport à ça. Ça permet vraiment au diable de s'infiltrer. Des fois, on retrouve des chrétiens à faire des trucs qui sont pas clairs. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'argent quelque part, souvent. Il y a des gens... Vous savez, quand quelqu'un est très pauvre, ben, il est tenté à faire quoi? À voler. Et parfois, on retrouve des chrétiens qui sont dans une extrême pauvreté et on les retrouve en prison. Il y en a certains qu'on a vus comme ça. D'autres qui étaient peut-être un peu plus riches qu'on a retrouvés aussi en prison. Mais ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, certaines personnes, quand elles ont rien à manger, elles sont tentées à faire quoi? Bah, aller prendre ce qui ne leur appartient pas. Et un chrétien, désolé, mais dans l'évangile, on va voir qu'il y a une puissance qui lui permet de vivre correctement s'il pratique certains principes de la parole de Dieu. Et ça met du temps aussi. Alors, c'est toujours pareil, on verra, les gens veulent le petit truc, le fast food, il faut que je prie, allez, une petite prière d'un serviteur de Dieu et d'un seul coup, tout va changer. Non, si vous êtes dans une pauvreté, il y a les moyens, au travers de secours, de vous faire sortir de cette pauvreté. Moi, j'ai eu plusieurs témoignages de gens qui m'ont dit, depuis ce temps-là, voilà quelle décision j'ai prise et voilà de quoi je suis sorti. Et des gens qui, parfois, certains parmi eux, ils mangeaient pas pendant 3 jours. Je me souviens d'un frère particulièrement qui, des fois, pendant 3 jours, il ne mangeait pas et il disait, je laissais ce qu'il y avait sur la table pour les enfants parce que les enfants avaient besoin de manger. Et aujourd'hui, il va très bien parce qu'il a appliqué certains principes. Je vous donnerai des témoignages à la volée, à droite, à gauche. Mais sachez une chose, c'est la parole de Dieu. Elle marche partout, cette parole. Elle marche aux États-Unis, en Afrique, il n'y a aucun problème. Aucun problème. C'est la parole de Dieu. Si ce n'était pas la parole de Dieu, alors elle pourrait marcher dans certains endroits et pas dans d'autres endroits. Si vous comprenez certains principes scripturaires par rapport aux finances et à la volonté de Dieu pour chacun d'entre vous vis-à-vis des finances, vous allez avancer. On parlera aussi du serviteur de Dieu un petit peu. On en parlera juste un petit peu sur ce cours et j'aborderai beaucoup plus tard dans un autre cours. Mais de ce qu'un serviteur de Dieu, comment il devrait se comporter par rapport à ça? Et qu'est-ce qui est décent pour un serviteur de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas décent pour un serviteur de Dieu? Parce que je sais que maintenant, avec l'accès que vous avez à Internet, vous avez l'occasion de pouvoir visiter tout un tas de sites de serviteurs de Dieu du monde entier. Certains parmi vous, parfois, vous pouvez peut-être être choqués en disant « Mais tiens, celui-ci, il dit qu'ils ont des millions de dollars comme un ministère et on le critique parce qu'il a ça et ça et ça et ça. » Et on verra. En tout cas, je vous donnerai une certaine position personnelle par rapport à ce qu'un serviteur de Dieu, le standing d'un serviteur de Dieu, ce qu'il doit avoir, etc., etc. Et quels sont certains abus qui, parfois, peuvent porter préjudice à son ministère et au corps de Christ d'une manière générale. Et vous verrez qu'il y a un équilibre. Donc, je vais essayer de vous donner dans cet enseignement quelque chose d'équilibré. Parce que vous verrez, il y a 2 extrêmes dans l'enseignement sur les finances. Il y a vraiment les religieux qui enseignent que la pauvreté, c'est la meilleure des bénédictions. Et ça, c'est complètement antiscripturaire. Et il y en a d'autres qui vous montrent que finalement, ce qu'il faut, c'est chercher à s'enrichir. Et nous verrons que ça non plus, c'est pas scripturaire. Et il y a un équilibre entre les deux. Au travers de cet enseignement, je vais vous donner quelque chose d'équilibré afin que vous sachiez quoi faire pour pouvoir prospérer selon la parole de Dieu, mais ne pas devenir des gens qui convoitent l'argent pour l'argent. Parce que ça, c'est une perversion que Dieu ne veut pas parmi son peuple. Et d'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui prient et qui sont dans une extrême pauvreté, et en fait, ils ne prient pas, mais ils s'arrangent toujours pour être accrochés à des gens qui ont de l'argent, et ils sont là, ils s'arrangent pour s'introduire dans ces maisons-là, et puis à la fin, ils tendent la main parce qu'ils n'ont rien à manger. Et ça, c'est vraiment pervertir les choses, et c'est vraiment mauvais. Et il y a même certains serviteurs de Dieu, entre guillemets, qui font ces choses-là, et c'est extrêmement mauvais. C'est vraiment anti-scripturaire. Jésus n'a jamais mendié son pain. Nous verrons le ministère de Jésus, nous verrons différentes choses et nous verrons les exemples qu'il nous a laissés. Alors, en attendant, c'est cette compréhension donc de ce que dit la parole de Dieu. Regardons ensemble dans 3 Jean verset 2. 3 Jean 2. Donc, 3e épître de Jean, 2e verset. Je vous rappelle que la 3e épître de Jean n'a pas de chapitre. Et il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alors regardons ensemble aussi 2 Corinthiens chapitre 9. Alors nous allons souvent étudier ce chapitre. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 10 et verset 11. Il est dit, celui qui fournit, c'est-à-dire Dieu, bien sûr, celui c'est Dieu, qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Verset 11, vous serez de la sorte, enrichi à tous égards, en vue de toute espèce de libéralité qui, par votre moyen, aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Ici, la parole de Dieu va nous montrer un certain nombre de choses. Elle nous parle d'être de la sorte enrichi à tous égards. Vous avez remarqué, il n'est pas dit enrichi juste à quelques égards, c'est-à-dire dans quelques domaines. Il est parlé d'être enrichi à tous égards. Être enrichi à tous égards. En vue de toute espèce de libéralité. La libéralité, c'est de pouvoir donner librement comme tu as envie de donner. C'est ça la libéralité. En vue de toute libéralité, c'est-à-dire tu peux donner librement comme tu as envie de donner. C'est sûr que si tu as 10 francs dans ta poche, c'est difficile, et si tu dois manger en plus, c'est difficile d'avoir une capacité à donner. Parce que tu n'as rien à donner quasiment. Tu ne peux pas avoir une volonté de dire, maintenant, tiens, il y a telle chose là, vraiment, je veux donner parce qu'on est en train de faire telle chose pour l'œuvre de Dieu. Il y a une croisade, il y a un besoin au niveau de l'église, etc. Tiens, je vais écrire un chèque de 5 000. Non, tu peux pas faire ça. Pourquoi tu peux pas faire ça? Parce que tu ne les as pas. Tu n'as pas la capacité à ce moment-là à donner. Et c'est pas la volonté de Dieu que nous soyons liés avec un manque de finances. La Bible est claire là-dessus. La Bible est claire. Donc faisons attention parce que très souvent, les gens ne comprennent pas bien ce principe. Ils pensent que bon, quand on commence à parler de finances ou qu'ils entendent le mot prospérité, ça y est, ah, c'est les gens qui ne parlent que d'argent et c'est que des histoires d'argent. Ça n'a rien à voir. Bibliquement parlant, ça n'a rien à voir. Il peut y avoir des gens qui enseignent de façon abusive, ça oui, ça c'est vrai, il y en a. Il y en a qui enseignent de façon abusive sur l'argent et qui cherchent l'argent des chrétiens, ça on est d'accord, pour des fins personnelles. Il y a l'autre côté du versant, hein, où ce sont les gens qui mettent des joues de la pauvreté sur les chrétiens, en disant qu'être pauvre c'est la meilleure des bénédictions. Ça fait du bien, hein. T'as tes enfants qui ont été chassés de l'école. Ah, gloire à Dieu, c'est superbe. Non, pas vraiment. Tes enfants qui demandent un bout de pain et tu n'as rien à leur donner à manger, c'est pas glorieux, pas du tout glorieux. C'est pas du tout glorieux. Et Dieu ne veut pas ça. Parce que nous sommes les enfants du roi. Et les enfants du roi n'ont pas à souffrir de certaines malédictions qu'Adam et Ève ont permis que le diable puisse amener sur cette terre. Donc, Dieu a une volonté pour nos finances. Il nous parle de prospérité à tous égards. Vous serez enrichi à tous égards. Alors, notez qu'il y a plusieurs sortes de prospérité. Il y a plusieurs sortes de prospérité. Parce que quand on parle de prospérité, c'est pas forcément la prospérité financière. Loin de là. Il y a plusieurs sortes de prospérité. Numéro 1, la prospérité spirituelle. La prospérité spirituelle, c'est la croissance, bien sûr, au niveau de la parole, au niveau de notre relation avec Dieu, la croissance spirituelle. C'est la croissance spirituelle. Ensuite, il y a la prospérité liée à l'âme, donc la personnalité. Prospérité liée à l'âme. C'est la prospérité liée à l'âme. Alors en fait, c'est l'épanouissement de notre âme, de notre personnalité. Comme on dit en français, c'est bien se sentir dans sa peau avec le Seigneur et dans les choses de la vie. C'est bien se sentir dans sa peau, c'est s'épanouir. S'épanouir dans tous les domaines. Réussir dans tous les domaines. Réussir dans tous les domaines. Avoir de la satisfaction, la confiance en soi, être bien dans sa personnalité, être équilibré dans sa personnalité. En fait, c'est le contraire de la frustration. Hein? Qui parmi nous est bien quand il est frustré? Je crois pas. Hein? On peut pas être bien quand on est frustré quelque part. Tu es là, tu échoues dans tel ou tel domaine. Là, c'est vraiment frustrant. Tu es frustré, tu es pas bien. Et c'est normal. Il y a un sens de la réussite que tout chrétien devrait avoir. Avoir le sens de la réussite, c'est pas quelque chose de pervers, c'est pas quelque chose de contraire à Dieu, au contraire. Non. Pas du tout. Je pense que quand le Père a envoyé Jésus, il voulait que le plan réussisse, hein, me semble-t-il. Hein. Il voulait pas que ça se termine mal. Et nous sommes à l'image de Dieu. Dieu, je dirais, veut que nous réussissions. D'ailleurs, il y a un psaume qui est très bien, que j'aime beaucoup, c'est le psaume 1 là-dessus. D'ailleurs, dans le psaume 1, juste. Quelques petites parenthèses. Sens de la réussite, c'est vraiment très très important ça. Bien sûr, tu sais replacer la gloire où elle doit être, bien évidemment. Mais quelqu'un qui réussit là où il passe, c'est quelqu'un qui s'épanouit. Quand il est là, il fait ce que le Seigneur lui demande et il voit régulièrement de la réussite dans ce qu'il fait. Il y a une satisfaction et c'est normal. Surtout nous les hommes, échouer c'est terrible pour nous. Nous avons notre orgueil de mâle qui est là. Et non, mais c'est important. C'est important. Quand tu as des défis devant toi, quand tu dois arriver à un but ou à des buts particuliers, si tu ne réussis pas, il y a quelque chose, il y a une frustration quelque part, et c'est normal. Et là, il y a un manque d'épanouissement. Et la Bible est pour que nous réussissions. Regardons ensemble. Regardons le psaume 1. Elle nous en donne les ingrédients d'ailleurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, verset 1, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu si vous préférez, et qui médite sa loi, sa parole jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Moi j'aime trop ce verset. Vous imaginez, tout ce qu'il fait réussit. Et quand tu es comme ça dans ta vie, moi, il y a des choses comme ça, parfois, il y a des tranches de vie comme ça. Et ça, j'aime. Mais alors, quand je retombe de l'autre côté, par contre, là, ça me fait mal. C'est frustrant, hein, c'est frustrant. Il y a des fois, vous avez des objectifs, vous êtes là en train de travailler, faire des choses, vous avez des objectifs. Et les uns après les autres, ça réussit, ça réussit, ça réussit, ça réussit, ça réussit. Par contre, quand il y en a un ou deux qui commencent à pas réussir, là, c'est là où on est frustré. Mais c'est bon parce que ça nous épanouit. Et nous sommes appelés à ça. Tu es appelé à réussir. Tu n'es pas appelé à avoir la tête écrasée, surtout pas par des païens d'ailleurs. Tu es appelé à réussir. Dans ce que tu fais, dans ce pourquoi tu t'engages. Et il y a des ingrédients pour ça. Il y a des ingrédients. La Bible nous en parle ici, entre autres. Ce psaume, il y a beaucoup de choses là-dessus. Mais la réussite doit faire partie du lot du chrétien. Si quelqu'un fait le bilan de sa vie et qui dit non, franchement, là, c'est échec sur échec sur échec sur échec, il y a un problème. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça, malheureusement. On en rencontre. Ils sont jamais joyeux, ils sont jamais en paix, ils ont toujours des problèmes. Ils réussissent jamais quelque part. Certains, ils écoutent la parole depuis des années et ils restent tout le temps dans des échecs. Ils s'épanouissent pas. Là, il y a un problème quelque part. C'est un problème de foi, ça peut être un problème de compromis, ça peut être différents problèmes. C'est pas mon sujet aujourd'hui. Mais en tout cas, Dieu t'appelle et m'appelle à réussir. Si je ne réussis pas, c'est que j'ai un problème quelque part. C'est que je me suis peut-être pas engagé dans la bonne chose ou c'était pas ce que le Seigneur voulait pour moi. C'est clair. Parfois, on fait des choses par nous-mêmes et on a besoin des choses du Seigneur, c'est vrai. Je vais faire une petite parenthèse là. Dans ce cours, on va parler de la valeur du travail aussi. Et de la valeur du travail bien fait. Parce que la prospérité implique un certain nombre de qualités de caractère aussi. La prospérité, c'est pas seulement je sème ma dîme. C'est pas seulement ça. Ça, il faudrait que vous le sachiez aussi. Parce que souvent, on met trop l'accent là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Ça, on est bien d'accord. Il y a l'aspect de la foi, etc. Mais il y a l'aspect aussi d'une certaine qualité de ton caractère qui doit se développer. Et qui, parfois, ne se développe pas en même temps et crée des problèmes. Crée des problèmes. Mais je vais vous dire une chose. La valeur du travail bien fait et quelqu'un qui pratique des enseignements sur semer ses finances, je vous garantis, c'est quelqu'un qui réussira. Mais nous allons voir qu'il y a plusieurs ingrédients qui nous permettent de réussir. Il y a des gens, ils saisissent que la partie « Ah, il faut que je donne ». Non, non, c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Parce que nous verrons que Dieu peut multiplier le travail de nos mains. Eh oui. Et il y a une valeur, et je vous garantis, dans l'Écriture, il y a une puissante valeur au travail de qualité, au travail bien fait. Et malheureusement, dans le corps de Christ, souvent, c'est le travail mal fait qu'on voit. Je dois le dire. Il y a beaucoup de gens qui négligent beaucoup ce qu'ils font. Ils ne prennent pas en considération que Dieu bénit l'œuvre de leurs mains. Et qu'à partir du moment où tu ne mets pas une certaine ardeur à l'œuvre de tes mains, à une certaine qualité, tu n'avanceras pas. Et ça, ça demande un certain caractère pour le faire. Il y a des gens, pour eux, ils veulent simplement prier, voir quelques trucs. Bon, ils donnent leur dîme et disent, ça y est, le Seigneur me bénit. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Et si tu apprends à faire ça, tu verras qu'en te donnant en même temps, en ayant vraiment certaine ardeur pour le travail et pour le travail bien fait, et en même temps en donnant au Seigneur, en donnant à l'œuvre de Dieu, c'est là où tu verras réellement ton épanouissement et ta prospérité à tous égards. Donc on va expliquer ces principes petit à petit, il y aura des parenthèses que je vais faire. Alors, donc la prospérité de l'âme, et aussi, troisième prospérité, c'est la prospérité du corps, d'une manière générale. Prospérité du corps, troisième type de prospérité du corps, et cette prospérité du corps, elle a deux aspects. C'est bien sûr la bonne santé divine, ça c'est clair, la bonne santé divine, mais aussi, et bien sûr, notre sujet, la prospérité financière. La bonne santé divine et la prospérité financière. Je vous rappelle, nous l'avons étudié, Dieu nous veut avec une longue vie sur la terre, et ça c'est important aussi, ça fait partie de notre héritage. Mais une longue vie sur la terre dans la pauvreté, en général, certains préfèrent avoir une vie un peu moins longue sur la terre, quand on est dans une pauvreté ou une extrême pauvreté, et c'est normal. Parce que quand tu souffres trop, financièrement, à la limite, tu préférerais que ta vie s'écourte un peu sur la terre. En disant, autant que je sois auprès du Seigneur. Mais je sais pas si c'est le meilleur des calculs, finalement. Le meilleur des calculs, c'est quoi? C'est d'être prospère à tous égards, vous êtes d'accord? Si t'es prospère spirituellement, tu es prospère dans ton âme, tu es prospère dans ton corps, tu es prospère financièrement. Je crois que le mieux, c'est d'avoir tout en même temps, non? Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, c'est un choix. Nous sommes placés devant ce choix. Soit nous désirons vivre le meilleur de Dieu, ou soit nous désirons prendre certaines choses, et puis le reste, bon, tant pis, quoi. C'est pour ça que l'évangile est un évangile qui est complet. Christ nous a rachetés de tout. Maintenant, c'est à nous de puiser et de sortir de certaines choses. Certains, parmi les chrétiens, des fois, vous avez des gens, ils sont extrêmement malades, ils se convertissent, ils sont très malades, etc. Financièrement, ils vont très bien. D'autres, c'est le contraire. Ils vont très bien dans leur santé, mais financièrement, c'est plutôt la catastrophe. c'est ouragan sur ouragan, hein, c'est tremblement de terre sur tremblement de terre. Et il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des chrétiens, c'est tremblement de terre sur tremblement de terre. Et des choses graves. Des choses graves. Moi, des fois, je reçois des lettres, un courrier électronique de gens qui sont dans des situations. Mais alors, c'est une catastrophe totale. Et vous en connaissez aussi beaucoup. Et des chrétiens qui vont tous les dimanches fréquenter leur église et prier. Et qui sont toujours, 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 toujours. On découvrira que la pauvreté est une mentalité. Que c'est une mentalité. Quand cette mentalité est changée, avec les instruments que nous donne l'Évangile, les ingrédients que nous donne l'Évangile, on peut sortir de la pauvreté. Et ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre. Il faut que ce message passe. Parce que trop de chrétiens sont dans une mentalité où ils sont comme le monde. Ils ont les yeux sur les gens, ils ont les yeux sur les organisations humanitaires, ils cherchent de l'aide à droite et à gauche. Moi, vous savez, quand des gens viennent pour de l'aide dans l'église, je vois toujours à plus long terme. Il y a des gens, ils disent « Ah, je vais me faire chasser de ma maison, j'ai des enfants à la maison, j'ai plus rien, ou on m'a tout volé, ou ceci, ou cela. » Et des situations comme ça, il y en a régulièrement. Des chrétiens, hein, nés de nouveau, qui sont dans des situations comme ça. Et souvent, ce que les gens veulent, c'est un soulagement. Mais quand on leur donne un soulagement, qu'est-ce qui se passe après? La situation recommence. Parce que tu peux leur acheter des casseroles, tu peux leur acheter même des habits, tu peux même payer le Minerva les enfants, tu peux même payer les arriérés de loyer, d'accord. Mais s'ils ne rentrent rien tous les mois à la fin du mois, le mois prochain, ça sera le même problème. Sauf que ce sera juste un mois de loyer de retard. Puis après, ça sera 2 mois, 3 mois, etc., etc. Et après, ça recommencera. Et c'est là où il y a un problème quelque part. Et certaines personnes, c'est vraiment intéressant. Moi, je suis toujours en train d'étudier comment les gens réagissent avec la parole de Dieu. Je dis souvent, les étudiants, vous êtes mon laboratoire. Vous êtes mon laboratoire. Parce que on donne la parole et c'est intéressant de voir comment la parole s'implante dans le cœur des gens. Avec la même parole, avec le même enseignement, voir comment cette parole s'implante et a des effets sur les personnes. C'est vraiment intéressant. Alors on voit certaines personnes, à ce coup, elles découvrent des choses de la parole, ça fait paf, ça explose à l'intérieur d'elles, et disent « ça y est, j'ai compris ». Et d'un seul coup, ils se mettent à pratiquer cette parole, et leur situation change complètement. On a vu des malades guéris, on a vu des gens qui avaient des maladies chroniques, tout un tas de choses comme ça, d'autres personnes qui étaient complètement bloquées dans différents domaines de leur vie spirituelle, qui s'épanouissent dans le domaine financier, etc., etc., etc. Par contre, on voit aussi certaines personnes qui ont des enseignements pendant des années et des années et des années, je le vois bien à l'église aussi, des années et des années et des années, et ils sont soumis à ce même enseignement. Et vous voyez, ils n'arrivent pas à décoller. Vous leur dites, non, tu vois, c'est un problème de mentalité que tu as vis-à-vis de la pauvreté, tu vois, vis-à-vis de ça ou ça ou ça. Vous pourriez leur donner tous les financements que vous voulez, ils retournent à la case départ à chaque fois. Vous êtes sûr que s'ils ont un financement, la première fois, bon, ils vont commencer à faire certaines choses, par exemple à faire un petit projet ou quoi que ce soit. Quelques temps après, vous êtes sûr d'une chose, quand ça commence à bien marcher, ils se font tout voler. Et ça recommence à zéro. Ils viennent vous revoir une deuxième fois. Tu sais pas ce qui s'est passé, pasteur, il y a tel ou tel problème qui m'est arrivé, etc., etc. Bon, vous pouvez leur redonner un autre financement. Après, ça sera un autre problème. Ah, j'ai eu un membre de la famille à l'hôpital, j'ai dû tout prendre. Et ils reviennent à la case départ, etc., etc. Et c'est tout le temps des cas comme ça. Enfin, tout le temps. La majorité du temps, c'est ça. D'autres, par contre, ils comprennent. Et là, ils comprennent vraiment qu'ils doivent s'en sortir avec la parole et avec ce qu'ils gagnent, et qu'ils donnent leur dîme, et ils commencent à s'en sortir, et vous les voyez, d'un seul coup, ils s'épanouissent. Et quelques années plus tard, vous les voyez, ils vont bien. Bon, le dépannage que vous leur avez fait, ça les a aidés entre-temps à motiver aussi leur foi dans d'autres domaines. Ils ont eu la parole entre-temps par rapport à ces problèmes de finances, et ils commencent à avoir la foi, ils ont prié, ils ont des boulots, et hop, 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 et ils grimpent, et ils grimpent, et ils grimpent, et ils grimpent. Mais il y en a certains, ils retombent toujours dans le même cycle, parce qu'ils ne renouvellent pas leur intelligence, ils ne renouvellent pas leur façon de penser. Il reste avec la mentalité du pauvre. Et on verra que c'est une mentalité. Quand quelqu'un commence à découvrir dans la parole que Dieu le veut en train de réussir, que Dieu veut qu'il prospère, là, cette personne, déjà, elle acquiert quelque chose. Parce qu'un des premiers blocages qu'il y a, c'est cet aspect-là. Il y a beaucoup de gens, quand ils sont dans la pauvreté, ils ne pensent qu'une chose, c'est se dire, mais bon, bah, Dieu m'a créé comme ça. Donc, j'ai toujours vécu ça, mon grand-père était pauvre, mon père est pauvre, je suis pauvre, donc mes enfants sont pauvres, mes petits-enfants seront pauvres. Et ça, c'est une mentalité qui est ancrée. Si vous discutez avec quelqu'un qui a des problèmes de finances, qui est chrétien né de nouveau, rien que de l'entendre parler, vous allez voir qu'il va, il va vous sortir un langage plus ou moins similaire à ce que je vous ai dit là. En tout cas, si vous creusez un peu, vous verrez que cette personne est née dans la pauvreté. Qu'on soit né dans la richesse ou dans la pauvreté, qui a fait qu'on soit riche ou on soit pauvre à notre naissance? On n'a rien fait pour et on n'a rien fait contre. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que les choses changent. Et c'est ça qui est important à comprendre. Surtout dans le domaine des finances. Donc, ce que Dieu veut, c'est nous aider pour que nous puissions quoi? Prospérer, donc réussir. D'accord? Alors, 2 Corinthiens 9, on va voir encore. 2 Corinthiens 9. On va voir là les versets 7 et 8. 2 Corinthiens 9, versets 7 et 8. Là, pour moi, c'est le verset de la prospérité, celui-ci. 2 Corinthiens 9, versets 7 et 8. Surtout le verset 8. Le verset 8, c'est le verset de la définition de la prospérité. 2 Corinthiens 9, 7 et 8. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. On étudiera ce principe d'apprendre à donner et comment donner. Mais verset 8, il est dit, et Dieu a le pouvoir ou la capacité de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Ça, c'est la définition de la prospérité. Qu'est-ce que nous dit ce verset? D'abord, ce verset nous montre une chose, que Dieu a la capacité, il a la capacité à nous combler. Dieu a cette capacité. S'il a la capacité, il a le désir, bien sûr. C'est clair. Donc Dieu peut intervenir dans nos finances. Ça, c'est clair. La Bible nous montre clairement que Dieu est un Dieu qui peut intervenir dans nos finances. Je ne vais pas vous refaire un cours sur la foi, hein, où je vous ai montré sur la foi qu'il y a des gens qui prennent les bonnes circonstances comme des interventions divines. Là, on parle de vraie foi. Quand quelqu'un a réellement la foi par rapport à sa prospérité, il peut voir sa situation financière changer. Dieu peut, il a cette capacité à te combler. Pas à te donner quelques gouttes, mais à te combler. Être comblé, ça veut dire quoi? Ça veut dire être largement, abondamment pourvu, vous êtes d'accord? Être comblé par quelque chose, quand tu dis vraiment je suis comblé, ça veut dire que t'en as une grosse dose. Vous êtes d'accord? Être comblé, c'est pas quelques gouttes. C'est pas quelques petits morceaux, en général. Être comblé, c'est en avoir en abondance et dire, Seigneur, ça suffit, là, j'en peux plus, là. Je peux plus en avoir autant. C'est ça, être comblé, me semble-t-il. Quand tu es comblé dans une situation, quand tu es comblé de quelque chose, c'est que tu en as largement, largement, bien plus que ce dont tu as besoin. C'est ça, être comblé. Et la Bible nous dit qu'il nous comble. C'est son désir, c'est son pouvoir, sa capacité de le faire pour ses enfants. Et à quoi cela sert-il? D'abord, afin. Tu seras comblé de quoi? Pourquoi? Afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins. C'est pas en ayant juste un peu ou de temps en temps tu es dans l'abondance et puis à d'autres moments tu es dans la disette. Non, non. C'est pas ce que la Bible dit ici. Elle dit que tout le temps, tu dois avoir tout ce qu'il te faut pour tes besoins personnels. Tout. La volonté de Dieu, c'est que tu aies tout le temps, dis bien tout le temps, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des moments où tu manques de quelque chose. Mais que tout le temps, tu aies ce qu'il faut pour pourvoir à tes besoins. Ça, c'est une première chose. C'est la volonté parfaite de Dieu. Quand un chrétien manque de quelque chose, c'est qu'il n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Il faut être clair. Il faut être très clair. Si tu ne t'en sors pas financièrement, c'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu actuellement. Dieu veut justement intervenir dans ta vie de ce côté-là. Il a la capacité à te combler, à ce que tu sois parfaitement pourvu, tout le temps, pas de temps en temps, et dans tous les domaines. Et chacun, nous avons des besoins plus ou moins grands. Si tu es célibataire, tu as moins de besoins que quelqu'un qui a une famille à charge. Et c'est normal. Tu peux avoir une petite famille à charge avec des petits-enfants ou tu peux avoir une grosse famille à charge avec des grands-enfants. Et les grands-enfants, quand ils sont à table, ils mangent un peu plus que les petits-enfants. D'accord ? Et ils ont un peu plus de besoins en général. Il faut pourvoir à beaucoup plus. Donc un budget d'une petite famille ou d'un célibataire, hein, par rapport à quelqu'un qui a une famille avec des grands-enfants, bah c'est pas du tout le même budget, il faut être clair. C'est pas le même budget pour se loger, c'est pas le même budget pour se nourrir, c'est pas le même budget pour s'habiller, ce n'est pas le même budget pour se déplacer. C'est pas le même budget en général, pour vivre d'une manière générale. Et Dieu dit dans sa parole de quoi satisfaire à tous vos besoins. Plus tu veux une grande famille, plus il te faudra de foi. Plus tu veux une petite famille, moins il te faudra de foi. Et ça, c'est normal. Il faut être clair là-dessus. Si nous nous engageons dans beaucoup de choses, il faut savoir aussi qu'il faudra engager notre foi. Il faut être clair là-dessus. Il faut être clair. Parce que tu as peut-être des ressources limitées, mais lui, c'est un Dieu aux ressources illimitées. Et c'est ça qui est bien avec Dieu. Nous allons voir, d'ailleurs, dans les noms de Dieu, il y a un certain nombre de choses qui nous enseignent là-dessus. Mais on a besoin de comprendre ces principes-là. On a besoin de comprendre ces réalités-là. En tout cas, Dieu veut que nous soyons pourvus largement. C'est-à-dire que tu n'es pas allé mendier ton pain ou que tu ne te retrouves pas à ce que tes enfants soient chassés de l'école ou quoi que ce soit parce que tu ne peux pas payer les frais de scolarité. Non, ça, c'est pas la volonté de Dieu. Et c'est pas la gloire de Dieu, d'ailleurs. Dieu veut que tu puisses t'habiller sans problème, te nourrir sans problème, vivre dans un endroit qui est décent, qui est propre. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est tout à fait normal. C'est vraiment sa volonté pour chacun d'entre nous. Et la Bible le dit bien. Donc ça, c'est un aspect de la prospérité. C'est-à-dire d'être pourvu. D'être pourvu. Ensuite, un autre aspect de la prospérité, c'est aussi que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Ah, ça c'est l'autre aspect. Avoir en abondance pour pouvoir faire des œuvres selon Dieu. Que les bonnes œuvres, c'est pas les œuvres mortes, c'est-à-dire c'est pas des trucs religieux. Mais c'est aussi d'avoir au-dessus, c'est-à-dire tu es satisfait dans tes besoins et tes besoins, ça dépend de toi. C'est clair. Mais là, que tu puisses avoir aussi une capacité à faire quoi ? À pouvoir donner. Quelqu'un qui a 10 francs en poche, il n'a pas de capacité à donner. Quelqu'un qui n'a rien dans le ventre, il n'a pas une capacité à donner. Quelqu'un qui a des millions et des millions sur son compte en banque, il a une capacité à donner. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence. Donc, avoir la capacité à donner, c'est-à-dire que d'une part, tu es pourvu, mais après, il te reste quelque chose pour que tu puisses donner au Seigneur. Que tu puisses donner au Seigneur. C'est cette capacité qui est là. Et ça, c'est une capacité que le diable n'aime pas que les chrétiens puissent avoir. Parce que c'est avec cette capacité-là que l'évangile peut se répandre, mes amis. Et ça, il n'aime pas ça, justement. C'est là où il essaye de combattre. Donc la volonté de Dieu, c'est que tu sois pourvu, que tu puisses acheter ta maison, que tu puisses acheter tes voitures, que tu puisses... Ça, c'est clair. Selon ce que tu vois, le mode de vie que tu veux avoir. C'est normal. À partir du moment où c'est pas de la convoitise. Mais que tu sois largement pourvu, que tu avances, qu'au fil des années, tout ce que tu fais réussisse, donc prospère d'une manière générale. Si tu as un commerce, si tu gagnes aujourd'hui 200 000 francs par mois dans ton commerce, bah, Dieu veut pas que tu gagnes 200 000 francs dans 10 ans. Mais il veut que tu gagnes beaucoup plus en 10 ans. C'est normal. Si tu as un business, c'est la même chose. Si tu as un salaire, Dieu ne veut pas que tu restes au même salaire. Ce que Dieu veut, c'est que ça change, que tu avances. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et que tu développes ce que tu dois développer, ce que tu as dans ton cœur de faire. Ça, c'est ce que Dieu veut pour toi, pour ta vie. Et d'une part, c'est parce qu'il veut que tu sois bien, parce que Dieu veut que nous soyons bien. Aller mendier chez des inconvertis, excusez-moi, mais c'est honteux pour un chrétien. C'est scandaleux. Et encore, le pire, c'est encore quand des pasteurs vont aller mendier auprès même de personnalités pour avoir un truc pour l'église ou pour avoir un financement. Vraiment, moi, ça me renverse le cœur de voir des choses comme ça. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. qu'un serviteur de Dieu ou quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu aille mendier. C'est indigne de celui qui est son maître. Il faut être clair là-dessus. Jésus n'a jamais été mendier. Vous allez voir comment le ministère de Jésus était soutenu et comment ça marchait. Et ça, c'est l'écriture. Ah, c'est sûr, la religion nous dit le contraire. Mais d'ailleurs, regardez le monde. Qu'est-ce qu'il nous dépeint des gens qui servent Dieu? Regardez les reportages du monde. Ah, ça vaut le coup. Moi, je rigole quand je vois ça. Qu'est-ce que le monde montre quand quelqu'un fait des bonnes choses avec Dieu, entre guillemets, dans la mesure où le monde croit en Dieu? Ça, c'est vraiment l'image du diable que le diable veut laisser passer. Le filtre que le diable veut laisser passer. Il vous montre toujours des gens qui n'ont rien, qui font beaucoup d'humanitaire. Et je suis pas contre l'humanitaire. Mais moi, ce que je veux, c'est que l'Église ait son rôle dans l'humanitaire. C'est qu'on soit bien clair là-dessus. L'Église doit avoir son rôle d'évangélisation dans l'humanitaire. Et je vous rappelle que quand vous faites de l'humanitaire et que vous êtes financé par des organisations internationales, vous n'avez pas le droit de prêcher l'Évangile. Parce qu'on vous coince. Et si vous le faites, croyez-moi, la fois suivante, vous n'aurez aucun financement. Ah oui, ça c'est clair. Par contre, si l'Église de Dieu est une Église prospère, c'est elle qui peut aller de l'avant, aller faire de l'humanitaire tout en prêchant l'Évangile. Et ça, c'est différent. Et là, tu fais ce que tu veux. Tu prêches comme tu veux, tu amènes les âmes au Seigneur. Tu soulages un peu la misère, mais surtout, tu amènes la parole de Dieu. Et c'est là où il y a un problème quelque part. Je vous garantis, c'est un problème qu'il faut qu'on résolve. C'est un problème qu'il faut qu'on résolve. Parce que nous avons notre rôle en tant qu'Église, mais nous ne devons pas faire n'importe quoi. Le monde vous montre une certaine image. Par quoi le monde est intéressé? C'est par les bonnes œuvres, parce que ça fait bien. Ça fait bien. Celui qui n'a rien, qui se donne à fond pour les autres, etc. Oui, d'accord. Mais si tu n'as rien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dépendre des autres pour pouvoir nourrir, pour pouvoir aider. Et ça, ce n'est pas bon. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que le corps de Christ soit productif. Il veut que le corps de Christ puisse prospérer, parce qu'à ce moment-là, tout ce qui est fait au sein du corps de Christ, ça peut être fait selon Dieu. Et avec des finances qui viennent des enfants de Dieu. Et ça, c'est vraiment la volonté de Dieu. C'est vraiment la volonté de Dieu. Donc ce que Dieu veut, d'abord, c'est que tu sois bien. Si tu n'es pas bien, tu n'as aucune capacité à faire du bien aux autres. Tu ne peux pas être une source de bénédiction si toi-même t'es pas béni. Ça, c'est clair. Et il y a beaucoup de gens, comme ils sont pas bénis, parce qu'ils ne savent pas débloquer leur bénédiction, eh ben, ils ne peuvent pas être une source de bénédiction. Ils ne peuvent pas être une source de bénédiction. Et nous devons justement chercher à prospérer pour cela. D'abord parce que quand tu n'as pas de soucis financiers, c'est beaucoup mieux pour toi. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment bien avoir des soucis financiers? Vous aimez bien avoir des soucis financiers, hein? Non, personne n'aime avoir des problèmes financiers. On déteste ça, et c'est normal. Quand tu as quelqu'un qui vient te voir parce que tu lui dois de l'argent, bon, s'il vient une fois, deux fois, trois fois, ça dérange, et c'est normal. C'est normal. Si c'est un établissement bancaire, c'est encore pire. Ça crée des problèmes. Beaucoup, beaucoup de problèmes sont dus à des manques d'argent ou des engagements stupides de la part des chrétiens. Que parfois aussi, on s'engage stupidement. Et parfois, on se mord les doigts avec ça. Et après, on se retrouve dans des situations où nous sommes. Vous imaginez quand un chrétien doit s'expliquer à la police à propos d'une dette qu'il a envers quelqu'un d'autre. Ah! C'est pas une situation très confortable, n'est-ce pas? C'est vraiment pas confortable. C'est pour ça que Dieu veut qu'on soit bien. Quand tu es bien, tu peux toi-même mener ta barque et ne pas dépendre des autres et être esclave des autres. Et c'est vrai au sein individuel, c'est vrai au niveau des églises. Une église qui a son propre bâtiment, qui a son propre terrain, etc., c'est une église qui ne dépend pas des autres. Et toute église doit avoir ses objectifs dans ce domaine-là. Et c'est normal, toute œuvre de Dieu, d'une manière générale, doit avoir ses objectifs dans ce domaine-là. Pour ne pas dépendre ou être esclave, souvent de païens qui sont là et qui essayent de... Hein, et le diable, souvent, qui pousse derrière, bien évidemment. Et ça, ça ne peut pas se faire si chaque individu ne comprend pas que Dieu veut le faire prospérer. Et souvent, des églises dépendent financièrement d'une ou deux personnes dans une église. Et ça, c'est pas bon. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Si les chrétiens sont prospères, n'importe où dans le monde, l'Église de Dieu peut largement s'établir et prêcher l'Évangile sans limite. Si les chrétiens restent dans la pauvreté, à ce moment-là, c'est la chose inverse qui se produit. Qu'est-ce qui se produit? Bah, les églises sont pauvres, elles s'en sortent pas, elles ont du mal et elles sont esclaves des païens. Et le diable rigole largement. Et c'est pas beau de voir le corps de Christ être esclave de païens, parce que le païen, lui, il sert qui ? Le diable. Et Dieu ne veut pas ça. Donc Dieu veut que tu sois prospère. Dieu veut que tu sois bien dans ta vie personnelle. Et ensuite, que tu aies cette capacité à pouvoir donner. Ça, c'est la définition de la prospérité. Alors, je vais vous donner aussi d'autres définitions. Définition de la prospérité. Définition. Donc, la prospérité, c'est avoir. La prospérité, c'est avoir. Tout ce dont nous avons besoin. La prospérité, c'est avoir tout ce dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. La prospérité, c'est avoir tout ce dont nous avons besoin dans le temps où nous en avons besoin. Alors, tout ce dont nous avons besoin, nous avons vu tout ce qui est logement, vêtements, moyens de transport, nourriture, bien sûr. Enfin, tout ce qui concerne notre vie. Selon les besoins de ta famille, si tu as une famille, si tu n'es pas marié, tu as un certain nombre de besoins limités, plus limités, c'est vrai, mais en tout cas, que tu sois tranquille, que tu n'aies pas de soucis, tu as envie d'acheter telle chose, que tu n'aies pas à souffrir, en tout cas, que tu sois bien. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est vraiment la volonté de Dieu. Et aussi, bien sûr, d'avoir la capacité à donner. Avoir la capacité à donner. Alors, le mot prospérité. Prospérité, c'est avancer. Ou prospérer, si vous préférez. Prospérer, c'est avancer. C'est avancer. Donc, c'est l'opposé de reculer, bien sûr. Hein. Avancer. Avoir suffisamment. Avoir suffisamment. Avoir du succès. Être dans l'abondance, c'est avancer, avoir assez, avoir du succès, être dans l'abondance. Pauvreté, la pauvreté, c'est le manque, c'est l'échec, c'est le manque, c'est l'échec, c'est l'insuffisance. C'est le manque, l'échec, l'insuffisance. C'est reculer, bien sûr. Manque, échec, insuffisance, reculer. Et être destitué aussi. La pauvreté, c'est vraiment une destitution. C'est vraiment amener l'homme à être quasiment comme un animal dans certains domaines. Ça, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible, 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 terrible. Quand quelqu'un manque, quand quelqu'un est là, qu'il souffre parce qu'il a rien à manger, parce qu'il a des habits qui sont sales, qui sont mauvais, etc., etc. Et ça, c'est pas normal. C'est pas la condition d'un être humain. C'est pas comme ça que Dieu a créé l'être humain. C'est clair. Adam et Ève, ils étaient pas dans cette condition-là, je vous garantis. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment dire non à ces choses. Et quand le corps de Christ commence à dire non, quand les chrétiens disent non, on n'est pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça dans ma vie, là, c'est déjà une étape. Vous savez, il y a des moments où il faut se fâcher contre les circonstances. Et bien se fâcher, d'ailleurs. C'est une bonne colère, c'est-à-dire dire maintenant, ça, j'en veux plus dans ma vie. Je vais éradiquer la pauvreté dans ma vie. Vous voyez, le monde, je ne sais pas si vous avez regardé un peu certaines choses au niveau de l'économie et de la géopolitique, c'est assez intéressant de voir, à chaque fois, ils font des grands séminaires en disant, à partir de telle date, nous allons éradiquer la pauvreté de ça, de tel endroit, on va faire ceci. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on s'aperçoit d'une chose, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Parce que quand on arrive à peut-être à aider certaines régions du monde, il y en a d'autres où ça recommence. Tout le temps. Regardez le cycle des populations, vous verrez que constamment, ce sont des cycles qui tournent. Ce sont des cycles qui tournent. D'ailleurs, ça tourne avec la guerre, ça tourne avec les influences démoniaques, ça tourne avec tout ça. C'est très clair. C'est très, très clair. Et le corps de Christ doit vraiment renoncer et faire attention à ça. Et il y a depuis plusieurs dizaines d'années maintenant d'excellents enseignements dans ce domaine-là. Parce qu'il y a vraiment le diable qui a tenu l'Église pendant des siècles, je dirais, en certains cas on peut dire des millénaires, à propos de cet enseignement qui était mauvais. Les religions traditionnelles ont complètement lié les gens avec ça. Ah, dans les religions traditionnelles, c'est très clair. Les vœux, hein, c'est « je ne possède rien », les gens qui s'engagent dans les églises traditionnelles, c'est clair. Ils n'ont pas le droit d'avoir des propriétés, ils doivent renoncer à tout héritage, etc. En fait, ils doivent rien avoir. Ils ne doivent rien avoir. Et ça, c'est quelque chose que l'ennemi a essayé d'infiltrer dans l'église de Dieu. Et les chrétiens doivent se réveiller par rapport à ça. Maintenant, l'excès inverse, et on en terminera par ça aujourd'hui, c'est bien sûr 1 Timothée 6. Un Timothée chapitre 6, verset 10. Où la Bible nous montre clairement la position que nous devons avoir par rapport à l'argent. La prospérité doit être un désir, mais sans jamais oublier 1 Timothée 6, 10. Et Paul dit, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. La Bible ne dit pas ici que l'argent est la racine de tous les maux. Non. L'argent, par lui-même, n'a aucun pouvoir. C'est dans les mains dans lesquelles il se trouve que là, l'argent prend un pouvoir. C'est dans les mains de la personne dans lesquelles il se trouve que cet argent a un pouvoir. Pouvoir d'écraser l'autre ou pouvoir de faire du bien à l'autre. Pouvoir de pécher ou pouvoir d'être une bénédiction pour le royaume de Dieu. C'est dans les mains dans lesquelles l'argent se trouve. C'est ça qui est important. Et si le corps de Christ était beaucoup plus prospère, vous savez, l'Église aux États-Unis a à peu près environ 50 millions est constitué de 50 millions de chrétiens, à peu près. Je pense, si mes souvenirs sont bons, qu'il y a à peu près une dizaine d'années, les Américains finançaient à peu près 80% de l'évangile dans le monde entier, au travers des missions, au travers des croisades d'évangélisation, etc. etc. Vous imaginez un peu 80%? Ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça fait beaucoup. Parce que ils ont compris que l'argent a un pouvoir. L'Église a compris que l'argent a un pouvoir là-bas. Et c'est vrai. Si ce pouvoir est aux mains des païens, après les chrétiens se plaignent. Vous regardez en Europe, le pouvoir est aux mains des païens, largement. Mais c'est une catastrophe. Une catastrophe pour l'Évangile et l'évangélisation. C'est une catastrophe totale. Totale. Par contre, les chrétiens américains, eux, dans beaucoup d'églises, ils ont compris qu'il y avait justement un pouvoir au travers de cet argent pour pouvoir quoi faire ? Répandre l'évangile. Vous savez qu'une des églises qui nous soutient aux États-Unis, nous, en tant que famille missionnaire, ils soutiennent 35 missionnaires. C'est pas mal, hein ? C'est une église de 3000 personnes. Ils envoient régulièrement du soutien financier à 35 missionnaires ou œuvres ou ministères d'une manière générale. C'est pas mal pour une église. C'est une église qui a une certaine vision quand même. Donc, il y a un budget qui est réservé pour ça. Et vivement que nous ayons des budgets dans nos églises réservés pour envoyer des gens qui sont appelés pour faire des choses du Seigneur, pour commencer des œuvres et pour les soutenir. Ça devrait être le cas. Plutôt que de voir autant d'églises qui sont en train d'avoir les yeux vers des pays divers qui ont des richesses en disant « Donnez-nous de l'argent parce qu'il faut qu'on s'achète un amplificateur ou un haut-parleur ». Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Et quand ça commence à changer, c'est là où on voit vraiment comment Dieu peut œuvrer puissamment. Et quand les mentalités commencent à changer. Et quand les mentalités commencent à changer, qu'elles s'ajustent à la parole de Dieu, croyez-moi, partout le principe de la parole de Dieu fonctionne. Amen. On continuera la prochaine fois.